Bienvenue pour Allo Tibé,
présenté par Myriam Piccinali.
Avec la complicité de Ludovic Tirol de 48FM, votre radio en Lozère, à Mende. Nous partons ensemble pour le Tibet, à travers des lectures de textes sacrés et profanes appartenant à la littérature tibétaine ancienne et ses sources indiennes que l'on peut qualifier de littérature d'éveil. Chères auditrices et chers auditeurs, nous sommes très très heureux de vous retrouver pour ce 8e numéro de Allo Tibet. C'est une émission que nous consacrons en fait au monde tibétain, mais vraiment au sens large, hein, parce que bon, on va aller un peu piocher en Inde, on va un peu aller piocher en Mongolie, selon les textes et les auteurs. Et alors, surtout, Lo Sartashi Delek, excellente année en tibétain. Mais comme c'est... Ça veut dire alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire auspicieuse et excellente nouvelle année. Mais le calendrier tibétain est lunaire, donc du coup, on souhaite la nouvelle année en fin février. Pour ce numéro, j'ai décidé de faire un petit peu un écart, comme on dit, faire un écart. Comme dans la vie, parfois, on fait des écarts. Et on va aborder un auteur très particulier, très intéressant, contemporain. Il s'appelle... Djangbu, en tibétain, Djangbu. Et il a un nom aussi de réalisateur, puisque c'est aussi un réalisateur. Shenak Tsang Dorje Tsering. Alors pourquoi aborder la littérature tibétaine? Mais pourquoi ne pas l'aborder, en fait? Il n'y a rien de moderne au Tibet qui ne soit profondément imprégné de toute la littérature classique. Vraiment, on peut le dire. Et donc c'est une littérature à la fois très moderne, comme leur musique d'ailleurs, très moderne, et en même temps qui puise ses racines dans le fond culturel. C'est vraiment très intéressant de voir ça. Alors, qui est ce monsieur Djangbu? Il est diplômé de l'Université des Nationalités du Nord-Ouest à Lanzhou. Il est devenu éditeur d'un prestigieux journal, le journal tibétain d'art et littérature. Et bien sûr, il s'est exilé. Hein. Alors là, je n'ai pas les détails de son exil, des dates, etc. Il a été lecteur à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, ou Langzo, comme on dit. Il y a enseigné la langue et la littérature tibétaine. Il a été assistant cinématographique avant de devenir réalisateur. Et il est poète. Et bien sûr, passionnément engagé, comme on le comprend, dans la défense et la promotion de la culture, de sa culture, bien sûr. Alors, Dorje Tsering est très connu comme cinéaste dans les milieux, on va dire, un peu initiés. Et il a réalisé 3 films qui ont été largement diffusés à travers le monde. Hein. Alors, son premier, c'est Tantric Yogi. Vous voyez, on parle que de ça. Tantric Yogi, c'est un film de 2005. Alors, c'est un documentaire, en fait. Hein. C'est un documentaire qui suit un yogi et ses compatriotes villageois qui partent pour rejoindre un rarissime rassemblement de milliers de pratiquants tantriques laïcs dans l'est du Tibet. Vous voyez, c'est quelque chose, ça nous époustoufle parce qu'on se demande bien ce qui peut les pousser. C'est pas une concentration de motos. Enfin, quoique, ils ont aussi des motos. Enfin, c'est très, très, très étrange. Alors, son premier film, si on peut dire, Annie Lacham, une nonne tibétaine. C'est un film de 2007. C'est l'histoire d'une nonne, donc une femme, qui désire plus que tout, en fait, apprendre à lire et à écrire. Et ses parents ne peuvent pas lui permettre l'accès à l'école pour des raisons économiques. Alors, on ne sait pas si c'est parce que c'est trop loin d'une école, etc. On n'a pas tous les éléments. Alors, elle s'enfuit dans un couvent afin d'y recevoir l'éducation dont elle rêve. Oui, c'est étrange pour nous aussi, ça. Dorje Tsering la suit lors d'un voyage à la ville voisine pour faire réparer le petit magnétophone qu'elle utilise pour apprendre le tibétain. Donc, elle doit être dans une région périphérique, je pense, du Tibet. Et c'est un récit de ce premier voyage de la Lacham en ville. Et ensuite, on a le film qui s'appelle Coconor, alors qui est plus écologique, engagé, en 2008. Quelques mots sur ce lac. C'est un lac salé qui s'étend sur plus de 3000 km² à une altitude de 3200 mètres dans la province du Qinghai, en République populaire de Chine, bien sûr. Il est connu depuis toujours comme un lac sacré. Et il est devenu dans les années 60, en fait, une célèbre base de recherche militaire. Et il a accueilli, devinez quoi, les essais de la première bombe atomique chinoise. Aujourd'hui, Coconor est aussi une station balnéaire. Et les touristes chinois s'y pressent en masse parce qu'il fait frais. Et donc, ils apprécient ce climat, alors que les plaines sont assez étouffantes. Donc, Shinaksan Tongji Tsering, réalisateur de ce film, donne la parole aux gens qui vivent autour du lac, par exemple des nomades, des parents, des enfants, des immigrés, chinois ou pas, etc. Voilà. Et je vous présente donc le hachoir invisible, Zugme Kitubji, avec 10 dessins de l'auteur, aux éditions L'Oreille du Loup. Alors, c'est une édition bilingue, très chouette, très sympa. Le texte à gauche, en tibétain, à droite, la traduction. La traduction est de Vineki Françoise Robin. Elle est incroyable, cette femme, dans tous les dossiers. Alors, Françoise Robin et Élise Mandine. C'est très original en tant que dessin. Alors, ce livre est paru en 2012. Qu'est-ce qu'on peut dire en deux mots? Puis je vous en lirai quelques poèmes. C'est une poésie à l'emporte-pièce, hein, vraiment. Toute pétrie de souffrance, muette, de non-réponse, d'absence de sens. Mais au final, c'est un témoignage déjà très poignant, mais qui a justement qui peut avoir une grande portée sur la question de la dignité humaine. Vous voyez, tout ce qu'on peut faire avec un simple texte. Je trouve ça extrêmement honorable, simplement sur le plan de l'engagement philosophique. Hein. Le titre du premier. Ce grand navire peut-il nous mener sur l'autre rive? Ce navire est trop grand. Il n'a pas de fenêtre, pas de porte. Nous devons y vivre depuis la naissance. Impossible de savoir s'il y en a d'autres, à gauche, à droite, devant, derrière. Ce navire n'est pas une prison. Il se contente d'y ressembler. Nous en occupons les bas-fonds. Et comme du tréfonds d'un puits, quand nous levons le regard vers le ciel, à la lueur du soleil, nous voyons les nuages rouges ondulants et quelques étoiles qui éclatent. Nous voyons le 26 juin 2000. Nous voyons lundi. Nous voyons aussi des rumeurs légères comme des plumes volant dans l'espace et des productions de faux-semblants. Ce navire qui emporte les bousculades, les soucis, les nouvelles croyances, où nous mène-t-il? Quelle ruse, quelle coercition faudra-t-il encore pour atteindre l'autre rive? Partie de cette terre sèche, où marées et déserts se succèdent, arriverons-nous quelque part? C'est quoi notre terminus? L'arrivée des invités indésirables. Quelqu'un s'est avancé vers moi, tout sourire. Il a dit « Je suis ton maître ». Le revolver dans sa main a parlé. Une balle s'est logée au fond de ma gorge. Ils ont piétiné mon instrument de musique, tout en massacrant les fleurs. Cette entrave à mes chants et mon mutisme fin ne sont que momentanés. La corde du cerf-volant s'est coupée dans mes mains. Ces ailes de papier douloureuses semblent se disperser dans les montagnes et les vallées. Bien des choses mériteraient une explication, mais je n'ai pas plus d'idées ni de courage que ça pour bâtir une histoire. Une scène de théâtre aux confins du monde, où s'empilent chair et sang. En fait, quel type d'assassin est-il, ce protagoniste? Après de longues années, j'ai toujours mal à la gorge. Le poison vigoureux de la balle se diffuse dans ma conscience sans aucun répit. Les cinq dégénérescences. Tout d'abord, les puits s'assécheront, dit-on. Ensuite, les végétaux disparaîtront, dit-on. Ensuite, les animaux s'en iront, dit-on. Ensuite, les yeux de l'âme perdront la vue, dit-on. Ensuite, il ne restera plus que la dignité, dit-on. Ensuite, les cœurs iront s'écartant, dit-on. Ensuite, la communication s'étiolera. Ensuite, tout déclinera, dit-on. Mais tout cela est probablement encore loin de nous. Hachoir invisible.
Chut! Tais-toi! Ils arrivent! Ne parle pas! Ils pourraient trancher nos langues! Dis-leur un mot gentil. Flatte-les. Affiche un sourire. Fais les courbettes.
Mais ils nous ont tranché les oreilles. Et nous passons à un tout autre domaine. Et une autre édition également, les poèmes tibétains de Chapkar, traduits par Mathieu Ricard, calligraphie de Jigme Douché, chez Albin Michel, format carnet, les carnets de calligraphie. C'est une merveille. Alors, quelques mots sur le traducteur, bien sûr. Mathieu Ricard, tout le monde connaît en France, moine et philosophe, et docteur en génétique, en passant. Donc, il est moine, il est resté moine. Mathieu Ricard, et il a son monastère à côté de Katmandou, au Népal. Je sais qu'il y fait des longues retraites, et il écrit bien sûr toujours sur le bouddhisme, et il a publié un magnifique ouvrage sur la photographie au Tibet, c'est tout à fait magnifique. Voilà, donc il fait entendre sa voix régulièrement sur sa foi, sur ses pratiques, c'est très intéressant. Quelques mots donc de ce calligraphe, Jigme Douché. Il pratique la calligraphie latine et l'art des sceaux chinois. Et il se passionne depuis 10 ans pour la culture du pays des neiges. C'est comme ça qu'on appelle le Tibet en général. Il est devenu spécialiste de la calligraphie tibétaine. Elle est très peu connue, en fait. Donc son travail lui a permis de rencontrer le photographe Olivier Fulmi en 1994. Et il a publié avec lui « Hommage du Tibet et l'horizon des dieux » aux éditions de La Martinière. Et puis, il a voyagé aussi en Asie, bien sûr, au Ladakh. Et du coup, il a approfondi son regard sur cette civilisation qui est aussi très originale. C'est un pays qui est... Enfin, c'est une région de l'Inde à l'heure actuelle, hein, qui est voisine du Tibet à l'ouest, enfin à l'ouest du Tibet. Et il s'est également nourri, des enseignements Dzogchen au fur et à mesure de son chemin. Et il a étudié aussi des documents et des manuscrits sur les écritures tibétaines. Alors, Chapkar, notre auteur, il est très connu au Tibet, Chapkar. Alors, ses dates, 1781-1851. Il est connu pour sa sainteté. Et également sa faculté d'émouvoir ses disciples, et également sa profonde spiritualité. C'est vraiment un grand maître de la spiritualité tibétaine. Et il était très heureux que chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, de l'enseigner en quelque sorte, voilà, considérant que le passant était venu pour lui. Et donc ce sont ses disciples, c'est souvent comme ça, hein, ses disciples qui lui ont demandé de raconter les étapes de son cheminement. Et il a écrit donc une autobiographie qui a été traduite aussi par Mathieu Ricard et Carice Busquet chez Albin Michel. Donc ici nous avons plutôt des extraits très poétiques, vous verrez. sur la sagesse bouddhiste, bien sûr. Donc je vous propose de lire quelques poèmes. Merveille, derrière les parois rocheuses, belles et massives. Devant, la neige sur les cimes de la chaîne majestueuse. Aux quatre orients monte la brume, apparaissent les arcs-en-ciel. L'oiseau divin, la belle perdrix des neiges, a cherché l'herbe des prairies et l'eau des cascades. Maintenant, elle demeure à la limite des neiges éternelles. Dans la brume des cimes résonne son appel musical. Tout comme le vol de l'oiseau dans le ciel clair ne laisse nul sillage, pour le yogi, les pensées sont la nature absolue et il est comblé. À regarder les milliers de yaks sauvages et démions qui errent dans la vaste plaine, la prétention des nomades à posséder de grands troupeaux n'est plus que vaine vantardise. S'il y a préjugé, il n'y a pas vu. S'il y a attachement aux choses conçues comme réelles, il n'y a pas de méditation authentique. S'il y a préférence et rejet, il n'y a pas d'action juste. La haute maison de terre battue est la vue. Les solides fondations sont la méditation. Les murs soigneusement tassés sont l'action. Ces trois éléments réunis forment la maison de terre battue qui perdure à jamais. Donc je vous laisse apprécier ces textes, mais je voudrais quand même vous donner une petite explication sur le cinquième, parce que c'est vrai que sans explication, c'est quand même un petit peu difficile. Je le relis. S'il y a préjugé, il n'y a pas vu. S'il y a attachement aux choses conçues comme réelles, il n'y a pas de méditation authentique. S'il y a préférence et rejet, il n'y a pas d'action juste. Alors, c'est comme si vous imaginez, je ne sais pas moi, un chercheur, par exemple, un chercheur scientifique qui a fait des recherches pendant 30 ans sur une molécule ou voilà, et à qui on demande en 10 lignes de résumer ses travaux. Vous voyez, c'est à peu près le même grand écart. Donc, chaque mot pèse 3 tonnes, si on peut dire. Donc, le mot du premier vers, phénoménal, c'est vu. La vue, c'est-à-dire la vision de la véritable unité des choses, la véritable nature des choses. Quand on dit choses, c'est nous-mêmes, les phénomènes, etc. Donc, c'est un concept basique, central dans la vision bouddhiste, la vue. Et s'il y a préjugé, c'est-à-dire que vous superposez sur la vue, qui doit être simple, naturelle, comme un bébé qui regarde, avec on propose une image qui va se superposer sur ce qu'on voit ou sur ce qu'on expérimente. La vue, ça ne concerne pas seulement ce que l'on voit, mais aussi ce qu'on expérimente. Hein. Donc voilà, donc restez sans préjugés. Bon, c'est tout à fait honnête, hein, comme voilà, on peut rien dire à la contre. S'il y a attachement aux choses conçues comme réelles, il n'y a pas de méditation authentique. Donc là, c'est le sage qui parle, le yogi, celui qui médite. La méditation est au cœur de la sagesse, hein, bien sûr, philosophique, de la philosophie bouddhiste. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de nous couper des contraintes extérieures du monde pour être dans une forme de vérité, on peut dire, hein, qui nourrit en même temps. Et l'attachement, c'est le grasping, comme disent les Anglais. Je trouve que le terme anglais est beaucoup plus fort. Grasping, c'est-à-dire on saisit, vous savez, on s'accroche à tout, hein, en fait. On s'accroche à nos loisirs, à nos plaisirs, aux personnes, aux actions qu'on fait, à notre image, à notre réputation, enfin, que sais-je. Donc voilà, donc ça, ça nous bloque, ça nous empêche d'accéder à une véritable détachement et une dimension intérieure. Voilà. Et s'il y a préférence et rejet, il n'y a pas d'action juste. C'est-à-dire que s'il y a préférence et rejet, ça j'aime pas, on est dans la dualité. Donc c'est justement, on est partiel. Pardon, on est partial, mais on est aussi partiel en même temps. Donc si on veut vraiment être dans la totalité de l'expérience voilà, merveilleuse qu'on vit, on ne prend pas parti. C'est une école. Ça ne veut pas dire que dans la vie, on n'a pas le droit de s'engager. Ou, voilà, hein, c'est simplement un entraînement. On ne parle pas d'autre chose. Voilà, notre émission numéro 8 est terminée. Oh, rien n'est jamais terminé, parce que si vous l'écoutez, vous allez peut-être y penser, y réfléchir. Et voilà, et on vous dit à la prochaine fois, vous souhaitant une très bonne journée.